bonjour. Vous êtes bien sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais y parler de deux grandes figures. Alors, Maria Montessori à travers un livre et Simone Veil à travers une pièce de théâtre. Nous allons en savoir plus sur ces deux pionnières et je recevrai donc mes deux invités. Puis, nous irons du côté d'un lieu atypique à Romainville, le Comunuma. Alors, c'est une ancienne usine qui regroupe 8 galeries d'art, un café, une école de costumes, des résidences d'acteurs, des lieux de répétition et bientôt qui va accueillir des salles du Conservatoire de musique de Paris. C'est à Romainville. Je vous conseille d'aller y faire un saut un week-end. C'est juste à côté du métro ligne 5 et c'est formidable, considéré comme vraiment une référence en matière d'art contemporain.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Chose promise, chose due, nous allons donc parler de la pièce de théâtre Simone en aparté, seule en scène, poignant sur Simone Veil, et je reçois la comédienne Sophie Carité. Bonjour.
Bonjour Agnès.
Voilà. La pièce Simone en aparté se joue donc au studio Héberto à Paris dans le 17e jusqu'au 15 janvier.
Oui, c'est ça.
Sophie Carité, vous incarnez Simone Veil. Nous voyons sur scène devant nous la vie de cette grande dame avec ses combats, ses engagements.
Oui.
Voilà, toutes les périodes oui, de sa vie, tout est là devant nous, comme par miracle. C'est très étonnant, c'est singulier. On a l'impression de la voir en chair et en os. Vous ne mimez pas, mais vous l'incarnez, vous devenez la grande dame, celle qui a combattu, voilà, toute sa vie. Vous avez même ses postures. Son regard clair, sa démarche vive, enfin voilà, vous êtes, c'est très étonnant, vraiment, chers spectateurs, allez la voir, spectacle d'1h15, seule en scène. Alors Sophie Carité, qu'est-ce qui fait que la ressemblance est troublante à ce point?
Alors écoutez, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question, mais je vais tenter d'y parvenir. Déjà, merci pour vos compliments, et merci, voilà, beaucoup, beaucoup. Ce que je peux dire par rapport au travail qui a été effectué avec le metteur en scène Arnaud Aubert, c'est que je pense que ce que vous évoquez est lié au fait que pendant un an et demi, nous avons travaillé avec Arnaud Aubert à regarder le plus possible d'images d'archives de cette femme. Sur cette femme, alors des images où évidemment elle s'exprimait, archives audiovisuelles, mais aussi archives audio, on l'a beaucoup écoutée, et le metteur en scène a décidé de faire un montage de ses paroles. Il souhaitait que la parole de Simone soit cette parole vivante. Donc on a fait ce qu'on appelle un petit travail de fourmi, on a pris notre ordinateur et on a noté tout ce qui nous intéressait pendant un an et demi. Donc vous avez évoqué ses combats, la période de la Shoah, évidemment, le rapport avec ses amis, le rapport avec sa maman. Voilà, on a essayé en plus de cela de tirer la veine de l'intimité. Donc je pense que ce que vous évoquez sur cette espèce d'incarnation, moi je ne peux pas en parler, c'est vous, spectateurs, qui pouvez renvoyer cela, mais je pense que c'est lié à ce travail, pendant un an et demi. Nous ne sommes pas partis de l'autobiographie de Simone Veil.
Oui, la fameuse autobiographie, une vie qu'elle a écrite.
Une vie, voilà. Oui. Évidemment, nous avons lu tout, je pense, alors sans être exhaustif, mais je pense tous les ouvrages qui existent sur elle et sur les gens qui ont écrit sur elle. Mais voilà, on est vraiment parti de cette parole vivante. Et je pense qu'après ce que vous évoquez sur l'incarnation, je pense qu'inconsciemment des choses se sont inscrites. Mais je tiens à préciser qu'Arnaud Aubert, le metteur en scène, ne tient pas forcément justement à ce que ce soit une copie du tout conforme de Simone. On n'oserait pas aller jusque-là. Et puis, restons humbles par rapport à cette grande figure. Il a voulu simplement que parfois, elle nous apparaisse. Voilà, c'est plus une évocation de Simone. qu'un copier-coller, et pardon de l'expression.
Oui, parce que vous ne lui ressemblez pas quand lorsqu'on vous voit en tant que personne. Mais ouais, c'est vrai, oui. Vous parlez de posture, c'est tout à fait ça, oui. Avec le tailleur un peu strict, le chignon dans la nuque, la voix posée, c'est ça.
Je pense que tout ça participe justement à l'image, c'est-à-dire qu'il y a eu évidemment un travail au niveau des costumes, au niveau de la coiffure, merci de l'évoquer. Et je tiens à préciser que voilà, c'est vraiment aussi tout un travail de toute une équipe pour aboutir à ce seul en scène. Je suis seule sur scène, mais évidemment, toute une équipe est derrière moi, vous l'imaginez bien.
Okay. Alors, au niveau de la scénographie, c'est assez intéressant. Alors, le plateau nu, assez sobre, et puis cet élément blanc, comme une rampe blanche qui monte. Et du coup, ça devient un peu un toboggan sur lequel vous glissez, vous lisez, vous prononcez les fameux discours hein, pour l'Europe, hein, pour l'IVG. Vous réfugiez aussi.
Oui,
qu'est-ce que ça représente finalement, cet élément peu au centre de la scène?
Eh bien, écoutez, il y a cet élément, mais il y en a d'autres aussi. Hein, vous vous rappelez des colonnes aussi qui montent jusqu'au cintre, là, hein, des éléments abstraits aussi. Hervé Mazin, le scénographe, a tenu justement, après plusieurs recherches, on est passé par du figuratif un peu au départ, par du naturalisme au niveau de la scénographie, et puis très vite, il a souhaité que cette scénographie soit abstraite pour pouvoir justement laisser place à l'imagination du spectateur. Et effectivement, ce que vous appelez cette rampe, alors nous on peut l'appeler la vague, la page du livre, représente cet élément abstrait, permet de représenter plein de choses. Donc effectivement, parfois nous sommes à la tribune de l'Assemblée, parfois elle est sur son lit, parfois elle est sur un toboggan quand elle est petite, etc.
Avec ses enfants, dans son cercle intime.
Tout à fait.
Oui. Et ces vidéos, alors, évocation d'images diverses, est-ce qu'elles représentent la nature ou au contraire un peu la souffrance de l'enfance?
J'ai envie de dire un peu tout, c'est-à-dire pareil, Hervé Mazelin là-dessus a tenu à ce que ce soit, vous avez vu, ce ne sont pas du tout des images d'archives qui sont projetées. Ce sont des images parfois abstraites, même le plus souvent abstraites, et puis parfois une évocation de la nature. Donc, pour refléter effectivement ce que Simone souhaitait, donc là je parle, enfin aimait, c'est-à-dire le rapport à la nature, mais aussi pour refléter parfois des horreurs qu'elle a traversées, telles que la Shoah. Vous vous souvenez des espèces de d'ailes d'oiseaux ou d'Y qui sont projetées à un moment donné avant que j'aborde le passage sur les camps de concentration, par exemple. Tout cela pour laisser place encore à l'imaginaire du spectateur et à ce qu'il peut lui projeter de ce qu'il voit de ces images.
Oui, et puis nous plonger dans une ambiance, nous rapprocher aussi de Simone Veil, nous faire rentrer dans son intimité, dans sa tête, dans son courage, dans ses combats. Il y a également des danses, elle danse parfois. En plus, vous, je crois que vous venez aussi du milieu de la danse contemporaine, vous en tant qu'actrice.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu une formation musicale et une formation de danseuse avant de découvrir le théâtre. Et puis, j'ai continué de pratiquer la danse pendant longtemps. Alors, nous ne savons pas si Simone dansait. mais de toute façon, nous avons évidemment, c'est pour ça que Arnaud Aubert parle d'une évocation, nous avons évidemment pris des libertés, nous avons rêvé sur cette femme, nous, de notre côté. Et pour faire aussi ces périodes de ces petits moments dansés, ou en tout cas qui évoque en fait une liberté, une libération. Voilà, on a voulu rêver sur cette femme et se dire que elle n'était pas qu'une icône. Elle était évidemment avant tout une femme, une petite fille, une adolescente, une maman, une grand-mère. Voilà, et vous avez pu remarquer que du début du spectacle à la fin du spectacle, on part de cette icône, de cette grande personnalité, pour aller de plus en plus vers l'intime et vers la femme, presque une femme peut-être universelle, en tout cas une figure de femme.
Oui.
Voilà, peut-être dépassons-nous aussi celle de Simone Veil, voilà, une femme parmi
d'autres. Elle a souvent dit qu'elle aurait aimé être frivole. mais justement, on voit son côté. Vous avez, le metteur en scène a un petit peu insisté là sur son côté femme, coquinerie. Hein. Moi, je pense au bouton de l'as de sa chemise qu'elle défait.
Oui, elle l'a prononcé, elle a vraiment dit, oh non, c'est pour faire de l'air. Voilà, on est vraiment parti de tout ce qu'on a entendu d'elle, vraiment.
Oui.
Donc oui, on a vraiment tenté dans toutes les interviews qu'on a entendues d'elle, qu'on a regardées, on a vraiment essayé aussi de tirer cette petite veine d'intime. Vous savez qu'elle était très pudique. Ses fils que nous avons rencontrés nous l'ont confirmé aussi. Et malgré cela, dans certaines interviews, en particulier avec un monsieur qui s'appelle David Teboul, qui l'a beaucoup côtoyé pendant plus de 20 ans, je crois, elle confie des choses quand même de temps en temps de cet ordre-là.
Oui.
Donc on s'en est emparé très vite, évidemment.
Oui, j'aime beaucoup le passage lorsqu'elle, c'est comme si un peu elle prenait du recul, elle analyse sa position, mais j'ai le droit à mon libre arbitre, à ma propre opinion sur les gens.
Oui, oui, oui. Ça, je pense que c'est quand elle réagissait beaucoup par rapport à son papa, qui trouvait qu'elle était non pas dévergondée, mais elle pouvait parfois être un peu insolente ou voilà. Donc en fait, il la plaçait toujours à côté de lui à table, raconte-t-elle, pour qu'il puisse avoir un œil sur elle. Donc je pense que c'était aussi beaucoup en réaction à son papa et à la manière dont il voulait l'éduquer. Elle était, lorsqu'elle était scout, son totem était, mais je pense que maintenant beaucoup de gens le savent, lapin agité. Voilà, ou lièvre agité, je ne sais plus, un des deux. Donc voilà, pour montrer qu'elle avait une forte personnalité déjà, toute petite.
Oui, toute petite, avant le drame de la déportation déjà, avant
oui,
cela.
Hein. Oui,
c'est ça,
tout
d'accord.
Fait.
Et puis il y a l'amour de sa mère aussi qui lui a donné le goût de la vie.
Oui, 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 le goût de la vie et je pense aussi le respect des hommes et des femmes, enfin de toute personne humaine. Hein, vous, évidemment, on sait le grand respect pour la personne humaine qu'elle avait et pour la dignité humaine. Hein, ces combats ont de toute façon tourné autour de cela. Et oui, vous avez, voilà, on évoque ce rapport à cette maman et ce rapport, cette admiration qu'elle avait pour sa maman.
Oui, et puis ses doutes aussi, même par rapport à ses enfants. Est-ce que j'ai été assez présente?
Oui, tout à fait. Ses enfants, pareil, lors de certains reportages où on a entendu qu'elle... Et bon, et puis maintenant, peut-être ça se connaît un peu plus. Elle passait parfois ses vacances avec... elle passait des vacances avec ses enfants et avec son mari. Et il fallait absolument, lorsqu'elle était magistrate, qu'elle s'arrête dans certaines prisons qu'elle devait aller visiter. Et ses enfants et son mari l'attendaient pendant parfois des heures, dit-il.
Oui, oui.
Donc voilà, oui, bien sûr, ça a été la problématique, comme beaucoup de femmes de cette époque, qui avaient une profession qui les engageait, qui devait leur demander beaucoup d'engagement, la part de l'intime, du personnel et de la profession.
Oui,
oui. Ça reste toujours compliqué, je trouve, au jour d'aujourd'hui, peut-être.
Oui, et puis on voit également tous ces combats, hein, pour l'IVG, bien sûr, et puis pour l'Europe.
L'Europe, oui, la défense des droits aussi dans des conditions de vie dans les prisons. Oui, on essaie d'aborder. Alors, on peut pas aborder tout, hein, en une heure et quart, presque une heure vingt. Mais voilà, on s'est attelé à ses combats, à sa vie personnelle et à ce qui nous touchait. Voilà, j'espère, sans être exhaustif, qu'on aborde les choses les plus importantes qu'elle a traversées.
Oui, un beau succès hein, pour cette pièce. Moi, quand j'y étais, c'était complet. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous avez commencé à Avignon 2022, la
oui.
tournée, et puis Paris. C'est un peu
oui.
dans l'ordre inversé. Bon, enfin, il n'y a pas de règle non plus.
Hein. Oui, c'est un peu dans l'ordre inversé, vous avez raison. Là, ça ne m'appartient pas. C'est vraiment de l'ordre de la réflexion du metteur en scène avec les chargés de diffusion, Sophie Lagrange à l'époque et Aléa Lepage maintenant. Oui, on a commencé par Avignon. Et puis, on a eu, je peux dire, la chance que les personnes du studio et Berthaud aient lu le texte et adoré ce texte. Adoré le montage qu'on a fait, enfin que Arnaud Aubert a fait des paroles de Simone.
Oui.
Et nous avons la chance d'être accueillis en co-réalisation.
Oui, et c'est donc jusqu'au 15 janvier hein, au studio
voilà,
Héberto.
Voilà, 15 janvier, tous les mardis et mercredis
voilà.
à 19h.
Mardi, mercredi, 19h. Parlons un petit peu de vous pour conclure, Sophie Carité. Vous êtes comédienne hein, depuis 25 ans.
Depuis plus de 30 ans maintenant.
D'accord. Vous avez joué dans, j'en cite quelques-unes, L'hiver sous la table, Le roi Lear, Huis clos, La cerisée. Vous avez déjà été mis en scène par Arnaud Aubert,
Oui, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble déjà avec Arnaud sur un spectacle, enfin sur plusieurs spectacles. On se connaît depuis plus de 15 ans, je crois maintenant. Et je peux vous dire, oui, c'est le troisième spectacle, je crois, que l'on fait ensemble. Vous voyez, la mémoire me joue des tours.
Oui. Et sa compagnie, c'est le Tani Théâtre, hein, c'est ça, hein,
oui,
justement.
Oui, le Tani Théâtre qui est implanté à Lisieux. Alors, à la fois, c'est une compagnie, mais c'est aussi un lieu. Voilà, c'est un lieu qui est un théâtre qui a un plateau où on peut accueillir une soixantaine de spectateurs, qui est situé au sein d'une ancienne filature. Donc c'est un théâtre, c'est un peu particulier parce qu'en fait nous n'arrivons pas au théâtre par le rez-de-chaussée, enfin nous y entrons par le rez-de-chaussée, mais en fait le théâtre est au deuxième étage. Voilà. Et puis Arnaud étant très très féru de transmission, il a aussi un théâtre école où il y a à peu près 300 élèves qui passent au sein du Tanit pour prendre des cours de théâtre.
Le Tanit, voilà. Ouais, lieu très très intéressant. Est-ce que vous travaillez toujours de votre côté en milieu scolaire? Vous faites toujours de la médiation
Oui, tout à fait. Pour moi, c'est très important aussi. Je travaille au sein de l'école d'ingénieurs de l'INSA. Je donne des cours à des étudiants, j'interviens ponctuellement dans des collèges, dans des lycées. Et puis pour revenir à Simone, ce qui est, je trouve, important, et je pense que Mme Veil aurait été heureuse d'entendre cela, c'est que après Simone en aparté, nous avons créé assez vite ce qu'on appelle nous une petite forme. Alors ce n'est pas du tout péjoratif, hein, c'est qu'elle est juste petite et légère techniquement, qui s'appelle Simone Veil, une femme libre, qui est tirée du texte que vous avez entendu, hein, de Simone en aparté, mais qui est réduit. La scénographie n'est pas du tout la même et nous intervenons, nous proposons ce spectacle au sein des collèges, des lycées, des bibliothèques, voilà, au sein de tous les lieux qui ne peuvent pas accueillir Simone en aparté parce que Simone en aparté est plus techniquement plus lourd. Et nous sommes ravis de transmettre la parole de Simone. Et après ce spectacle, Simone Veil, une femme libre, nous discutons pendant au moins une demi-heure, trois quarts d'heure avec les jeunes.
Voilà. Là, c'est vraiment de la médiation, de la transmission sur l'histoire, hein, sur le parcours d'une femme courageuse.
Oui.
Et c'est formidable. Et donc, vous pouvez accueillir en effet ces petites formes dans, alors peut-être pas une classe, mais un gymnase, une cour.
Oui, des salles polyvalentes. En gymnase, on n'a pas encore fait, mais des salles polyvalentes, encore une fois, je pense que là, sur la petite forme, on doit avoir uniquement 8 projecteurs, voyez-vous.
Oui, donc c'est très léger, oui.
Pardon.
C'est très léger comme forme.
Oui, c'est très léger. Oui. Et ce qui est intéressant pour moi en tant que comédienne, c'est que c'est un spectacle, malgré le fait que ce soit le même texte, avec des coupes, hein, évidemment, puisqu'il dure 50 minutes, celui-ci, eh bien, je joue deux personnages. C'est-à-dire que je joue une femme qui est passionnée de Simone Veil, et de temps en temps, on retrouve Simone. Voilà, on a créé deux personnages. Et pourtant, ce sont les mêmes mots, sauf que je me prends évidemment la liberté de dire « elle » ou de dire « quand je pense à l'enfance de Simone Veil, c'est une enfance heureuse », etc., voyez-vous ?
Oui.
Voilà, pour donner un peu de rythme, puisque nous n'avons pas la vidéo, nous n'avons pas le son, donc on a créé ce spectacle avec ces deux personnages, et pour moi, j'ai l'impression de jouer un tout autre spectacle, c'est formidable, enfin voilà, je suis aussi ravie et fière de jouer cette petite forme.
Et les personnes intéressées peuvent vous contacter ou plutôt la compagnie ?
Oui, en passant par la chargée de diffusion, par Alia Lepage du Tanit Théâtre.
C'est le Tanit, T-A-N-I-T. Tanit Théâtre.
À Lisieux. Voilà. À Lisieux, voilà.
Ça. Ils pourront vous
contacter. Et nous faisons partie du ce qu'on appelle le Pass Culture, donc il y a des possibilités financières intéressantes pour les collèges, pour les lycées.
Tout à fait, vraiment. Merci beaucoup de nous éclairer, c'est très intéressant. Eh bien, merci Sophie Carité. Je rappelle que vous incarnez Simone Veil en ce moment au studio Héberto à Paris, et c'est jusqu'au 15 janvier, Simone en aparté. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, Agnès.
Au revoir.
Au revoir.
On écoute Véronique Sanson, Drôle de vie.
J'ai tout fait pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras ?
Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les uns les autres t'aiment, tes drôles de poèmes, viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres t'aiment, tes drôles de poèmes, viens avec moi. Da 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 da.
Vous êtes sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime, ça continue. Donc je viens de parler de Simone Veil avec une pièce de théâtre. Et bien maintenant, place à une autre grande figure du XXe siècle, Maria Montessori. Et pour cela, je reçois Charlotte Poussin qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Oui, vous êtes donc une grande spécialiste de toute l'œuvre, la pédagogie, la vie de Maria Montessori. Et à l'occasion de la sortie, donc de la correction d'un livre, d'un que sais-je, passionnant sur cette pédagogie, la pédagogie Montessori qui touche les enfants de tous âges, les écoles. Eh bien, j'ai voulu vous interviewer, voilà, sur cette pédagogie, Charlotte Poussin.
Oui, tout à fait. Alors, le que sais-je sur la pédagogie Montessori connaît un beau succès. Donc, c'est une réédition mise à jour. Et il présente donc tous les préceptes, les piliers, et recontextualise l'histoire de cette approche pédagogique dans son contexte historique. Et il en donne aussi les fondamentaux, les héritages. Il répond à pas mal de questions sur cette pédagogie qui fait beaucoup parler, toujours très bien comprise. Et donc là, voilà, l'idée, c'est de lutter contre les préjugés et de présenter simplement les préceptes fondamentaux.
Oui, alors Maria Montessori, célèbre pédagogue qui a tellement œuvré pour l'enfance, hein, dont l'idée était l'éducation est la meilleure arme pour la paix. Alors une question, Charlotte Poussin, l'engouement pour les écoles, hein, Montessori a été très fort depuis 40-50 ans. Alors aujourd'hui, oui, avec l'ère du numérique, les changements sociétaux, les évolutions relationnelles, même parmi les enfants, leur pratique du numérique que nous connaissons. Alors, cet engouement est-il toujours d'actualité pour les écoles? Montessori.
Oui, Montessori continue à avoir de plus en plus de succès. En fait, je pense que c'était une femme très en avance sur son temps, et que donc il nous aura fallu un siècle pour prendre la mesure de tout ce qu'elle proposait. Vous faites une mise en lien avec le numérique, je ne sais pas si c'est tellement antinomique. Je pense que, de fait, elle ne s'est jamais exprimée sur ce sujet parce que ça n'existait pas. Mais je précise que dans les classes Montessori 6-12 ans, il y a un ordinateur qui permet aux enfants de faire des recherches. Voilà, la pédagogie Montessori n'est pas anti-écran. Si le contenu est positif, l'écran est un outil comme un autre. comme un livre ou comme un cahier. Donc je pense qu'il faut pas faire une dualité, ça n'est pas un duel, mais de fait, lorsque le cortex préfrontal des enfants est très peu développé, ils ont besoin de toucher, palper, manipuler et approcher, appréhender tous les contextes avec leurs mains, qui est une prolongation de leur cerveau, et le numérique qui rend passif si on ne fait que regarder, ou qui, avec une tablette, permet de toucher mais une surface toujours plane, ne répond pas du tout aux attentes du cerveau jusqu'à l'âge de 6 ans. Il faut vraiment déplacer des objets en volume, des solides. Donc, c'est très important de minimiser le temps d'écran jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, ça n'est pas interdit, ça n'est pas quelque chose qu'il faut diaboliser et oublier, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment canaliser et mesurer et qui ne peut pas remplacer la manipulation d'objets concrets.
Oui, mais je parlais aussi de la, tout simplement de la disposition dans les classes, c'est-à-dire il y a des enfants de tous âges. Je crois qu'on les laisse aller vers l'activité qu'ils choisissent. Voilà, est-ce qu'ils ont assez de concentration pour faire ça, vu l'évolution de nos comportements?
Je comprends. En fait, est-ce que les enfants ont changé? C'est ça un petit peu.
Oui, c'est ça.
Oui. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'enfants qui papillonnent un peu plus parce que peut-être que la surexposition aux écrans développe chez eux des troubles entre guillemets de la concentration. Mais je pense qu'il ne faut pas dramatiser non plus ni faire porter trop le chapeau. En général, c'est vrai que les enfants qui viennent dans nos classes restent attirés par le matériel parce qu'il est extrêmement séduisant, conçu pour attirer les enfants et pour développer leur concentration. De fait, on l'a pas précisé, mais les enfants dans les classes Montessori ont le libre choix de l'activité. Et donc, comme ils ont choisi, en général, ils sont contents de faire ce qu'ils font et ils focusent leur attention longtemps. La répétition est favorisée et le fait qu'ils ne soient pas corrigés, qu'ils n'aient pas peur de se tromper, fait que quand ils ont effectivement une erreur dans leur exercice, au lieu de leur faire perdre confiance en eux ou de se sentir jugés, cela restimule leur activité et cela leur donne envie de continuer à tâtonner. Et comme c'est le meilleur processus, hein, l'essai-erreur pour apprendre, c'est très propice. Et donc justement, contrairement au numérique où on a une petite étoile, une récompense immédiate, artificielle quand on réussit un exercice, là c'est vraiment leur tâtonnement et leur satisfaction, leur élan intérieur qui les motive et ça c'est précieux.
Là, on est sur quelle tranche d'âge? Là, vous nous parlez là de la plutôt la maternelle, les 3-6 ou plutôt la primaire?
Les deux. Les deux, c'est l'envie de réussir quand elle n'est pas détournée par des notes ou des récompenses. Dans un système Montessori, tout du long, c'est vraiment l'auto-évaluation qui prime. L'absence de notes et l'absence de comparaison entre enfants fait que cette motivation à apprendre perdure tout au long de l'enfance.
Et il y a peut-être donc une communication plus riche entre eux. Il y a peut-être plus d'entraide, finalement, que dans les écoles classiques.
Tout à fait. On ne demande pas aux enfants de travailler seuls ni d'être meilleurs que les autres. Ils sont en permanence dans une communauté. Là, moi, je suis en train de vous parler depuis une école, l'école Montessori Irisia d'Aix-en-Provence, où j'ai observé des enfants ce matin, qui collaboraient, qui travaillent ensemble. Alors évidemment, en classe 3-6, ils aiment beaucoup aussi travailler seuls, mais ils ont beaucoup de moments d'interaction et de solidarité. Et les plus jeunes sont attirés par l'activité des plus grands, et les plus grands consolident leurs connaissances en transmettant aussi ce qu'ils viennent d'apprendre, avec des mots qu'ils choisissent souvent beaucoup mieux que des adultes ne le feraient. Donc c'est très bénéfique ce mélange des âges.
Combien d'enfants à peu près dans une classe Montessori en primaire?
Alors en élémentaire, une trentaine d'enfants avec deux adultes. Et en élémentaire, c'est pour tous les enfants donc du CPE au CM2 de 6 à 11 ans. Et en 3-6, c'est entre 25 et 35. Toujours avec deux adultes.
Très bien. Il y a le matériel Montessori systématiquement ou peut-être pas en permanence toute la journée? Est-ce que c'est sur certains créneaux?
Alors, pour être une école Montessori entre guillemets digne de ce nom, il faut vraiment que les enfants aient une période d'activité de manipulation du matériel Montessori. pendant 2h30 à 3h sans interruption, le matin, et si possible, pas forcément tous les après-midi, mais au moins 2h, 2h30 l'après-midi. Donc ce sont vraiment des périodes où les enfants prennent des petites pauses au moment où ils en ont besoin, mais ça n'est pas une récréation à horaire fixe pour tout le monde en même temps. Ça permet aux enfants de se concentrer de façon très dense, parce que c'est un peu une fausse idée de croire que les enfants ne sont pas capables de se concentrer. En réalité, on les interrompt beaucoup et on dirige beaucoup leur activité, mais quand ça n'est pas le cas, comme dans les écoles Montessori, ils ont une capacité de concentration très forte, qui se développe d'ailleurs comme un muscle, et plus ils se concentrent. Donc on veille à ne pas les interrompre. Et le fait de choisir leur activité, de la faire avec une volonté propre, développe en eux une très grande capacité de concentration.
Alors, il y a dans le monde, vous me dites, hein, vous m'arrêtez si je fais une faute, je dirais 20 000 écoles Montessori.
Oui, alors le chiffre n'est pas exact parce qu'il y en a beaucoup qui prétendent l'être et qui n'en sont pas vraiment, et puis beaucoup qui le sont mais qui ne le revendiquent pas, puisqu'il y a même des pays où l'éducation nationale est très empreinte de l'approche montessorienne. Donc c'est très difficile d'évaluer ce nombre fluctuant, d'autant plus que ça se développe beaucoup dans l'éducation nationale de nombreux pays, comme la Thaïlande en ce moment par exemple, et on en compte aussi même beaucoup en Chine. Voilà, et elles ne se déclarent pas forcément comme telles, donc c'est un chiffre très vague, mais oui, il y en a de plus en plus en tout cas.
Et en bien France, au-delà de 5 000,
je pense, ouais.
Et en France, plusieurs centaines ?
En France, plusieurs centaines. Ça se développe dans le public. Il y a une association qui fédère toutes les initiatives Montessori qui s'appelle Public Montessori, que je recommande vivement à toutes les personnes intéressées par Montessori dans le public. Et puis, il y a l'association Montessori de France qui fédère aussi toutes les écoles et certaines qui sont chartées, donc qui volontairement décident de signer la charte qui a été créée par l'AMF. Et qui suit tous les préceptes de l'association Montessori internationale. Donc c'est vraiment les critères essentiels, c'est ces tranches de travail non interrompues tous les jours, des groupes d'enfants mélangés, des éducateurs vraiment formés, pas par correspondance en 2-3 week-ends, mais vraiment formés de façon très sérieuse, avec une connaissance de la psychologie de l'enfant, de l'importance du travail de l'observation de l'enfant, et puis enfin un jeu de matériel complet.
Oui, c'est ça. Oui, donc il y a des écoles, en effet, qui ont le nom Montessori, mais qui n'adhèrent pas forcément à l'association.
Oui, tout à fait. En fait, Maria Montessori n'a pas protégé son nom, donc il peut être utilisé par tout le monde. Donc en tant que parent, il faut être bien vigilant pour vérifier en fait que l'école est sérieuse et n'utilise pas que le nom. Et c'est vrai aussi pour le matériel pédagogique qu'on trouve dans le grand commerce. Certains diront qu'il y en a trop, parce qu'effectivement, il y a des outils qui sont assez déceptifs parce qu'ils n'ont de Montessori que le nom. Mais il y a aussi des coffrets qui sont très bien faits. En fait, il faut veiller à ce que les auteurs et ceux qui les proposent soient sérieux et, en fait, membres de l'association Montessori internationale ou en lien avec l'association Montessori de France.
Oui, d'ailleurs, vous, alors Charlotte Poussin, revenons un petit peu sur votre parcours. Vous êtes donc auteure, ancienne directrice d'école Montessori, administratrice de l'association Montessori de France, éducatrice, hein, bien sûr, Montessori, conseillère en pédagogie. Alors, vous êtes auteure, hein, je le disais tout à l'heure, de plusieurs livres à succès, hein, on va pas tous les citer, notamment « Apprends-moi à faire seul », hein, que vous avez écrit en 2011. Et donc, votre rôle aujourd'hui est aussi, justement, au sein de l'association, de vérifier la bonne charte des écoles. C'est ça ?
Oui, alors oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai été pendant 7 ans au conseil d'administration. Je ne suis plus maintenant, mais je suis toujours appelée par l'association Montessori de France pour consulter certaines écoles. Et de mon côté, à titre personnel, j'ai monté une petite entreprise de conseil. Donc, je suis appelée par des écoles, justement, qui cheminent vers la charte, mais qui ne l'ont pas encore signée. Donc, j'ai un rôle au sein de l'AMF, quand la charte est demandée, et un rôle pour des écoles qui cheminent indépendamment de l'AMF. Mmh. Et en ce qui concerne mon activité, je conseille aussi des projets qui ne sont pas en lien qu'avec les écoles, mais aussi la création de matériel pédagogique. En fait, moi, mon ambition à l'heure actuelle, après avoir passé donc 15 ans dans la classe et en tant que directrice d'établissement, c'est de vraiment faire changer les mentalités aussi dans les familles, dans les dans les maisons, dans l'air du temps, pour oui. que les enfants soient de plus en plus respectés, parce que c'est vrai que ce qui me plaît le plus dans cette approche pédagogique, c'est vraiment l'éducation à la paix, pour que les adultes soient plus en paix que les enfants, et les enfants plus en paix que les adultes, parce que je pense que c'est vraiment la source d'espoir qu'on a pour la paix demain, dans ce contexte actuel que l'on traverse, qui est malheureusement très belliqueux. On espère que chaque enfant soit un espoir de paix intérieure. Et donc, c'est vraiment pas une pédagogie de l'efficacité. On se tourne pas vers Montessori pour être meilleur que les autres, mais vraiment pour savoir vivre avec les autres. Et pour ça, ça suppose une paix intérieure de l'enfant, mais aussi des adultes qui travaillent avec eux, des adultes et des enfants entre eux. Maria Montessori parlait beaucoup du conflit générationnel et elle pensait que si on arrivait à résoudre ça, si des adultes cessaient de transmettre aux plus jeunes la violence qu'eux-mêmes avaient reçue quand eux étaient enfants, si on arrivait à couper ce cercle de violence transmise, on allait réussir à avancer vers une société meilleure.
Oui, donc c'est vrai
que
ça passe.
Et ça se joue à tous les âges, dès la naissance, dès le moment de la naissance et dès les plus jeunes années, en fait, dans les crèches. Moi, je conseille aussi des crèches, essayer de faire des environnements plus paisibles, plus propices à la paix intérieure de chaque enfant.
Oui, et ça passe aussi par la communication, bien évidemment.
Tout à fait.
Une communication riche, que ce soit interpersonnelle, en groupe, dans le noyau familial.
Exact.
Très important.
Donc c'est pour ça qu'il faut qu'aussi dans les familles, il y ait une prise de conscience de l'importance du respect fondamental de l'enfant. Que chaque enfant soit considéré comme une personne dont la vie compte, dont la pensée propre est acceptée, même si elle diffère de celle de l'adulte qui l'éduque. C'est une véritable prise en compte de l'enfant en tant qu'autre, avec un grand A, et non pas comme un enfant qu'on façonne, comme un enfant vitrine, comme un enfant qu'on veut performant, comme un enfant qu'on veut parfait pour se sentir bien, mais un enfant accepté en tant que tel, comme un individu à part entière.
Accepter sa différence, accepter ses projets, ses rêves.
Tout à fait. Et ne pas projeter les siens. On voit beaucoup d'enfants qui sont un petit peu parfois une occasion pour des adultes de revivre des choses qu'eux-mêmes n'ont pas réalisées. C'est toujours un petit peu déroutant parce que c'est difficile de dire à des parents de ne pas se projeter dans leur enfant, parce qu'effectivement l'enfant a aussi besoin d'un projet et de sentir qu'on lui transmet des valeurs, des choses que l'on aime, mais sans le téléguider. C'est-à-dire qu'en fait, notre rôle, c'est de donner envie, de fournir un environnement stimulant, mais ensuite, il faut vraiment accepter chaque enfant avec ses goûts et sa vocation à lui, qui peut être très différente de celle de ses parents ou des adultes qui l'accompagnent, quoi.
Oui, et ça, c'est vraiment une marque de fabrique, hein, de la pédagogie Montessori. Merci beaucoup Charlotte Poussin. Je rappelle le titre, hein, de votre dernier livre, Le Que sais-je, petit ouvrage passionnant sur l'histoire de Montessori. Voilà, on a envie d'en prendre de la graine.
Merci.
Très bien, merci beaucoup Charlotte Poussin. Merci d'avoir répondu à cette interview et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Bonne journée.
On écoute de Vianney, Beau Papa.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant. J'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas, même sans le même sang. On s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. J'avais pas prévu d'un jour adopter en vérité nue. C'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si la verse ne touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si la verse ne touche toi et moi, prends ma main, dis prends-la.
Nous allons parler maintenant art contemporain avec Marine Lemouel, directrice de la galerie Fabienne Leclerc in situ.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Voilà, vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Eh bien, Francky, je me suis rendue à Romainville, dans un lieu tout à fait étonnant. Vraiment, chers auditeurs, allez-y. C'est à deux pas du métro Bobigny, ligne 5. C'est donc à Romainville. C'est un quartier en pleine évolution, quartier culturel, quartier de l'art contemporain, du spectacle, de la mode. C'est la fondation Fiminco. Voilà, c'est en fait, je vais vous faire un petit résumé, un petit aperçu. Et j'ai la chance de recevoir Marine Lemoal. Bonjour.
Bonjour.
Qui est galerie manager d'une des galeries, puisqu'il y en a 8, une des galeries d'art contemporain qui s'appelle galerie, la fameuse célèbre galerie in situ. Fabienne Leclerc à Romainville, qui nous parlera de tout ce quartier culturel, qui nous parlera d'un photographe, Patrick Tosani, qui expose en ce moment à la galerie in situ. Je voulais juste avant ça quand même faire un petit aperçu de ce lieu tout à fait unique et inédit. Alors, il y avait donc les usines Roussel-Uclaf à Romainville, plusieurs bâtiments en briques rouges qui ont été complètement finalement rachetés par le groupe, donc c'était des friches industrielles qui ont été rachetées par le groupe Fiminco, qui est un groupe d'immobilier, en 2017, donc il y a 7 ans. Et le lieu a ouvert en 2019, c'est ça ?
Officielle a eu lieu en 2019, effectivement.
Voilà.
Nous nous sommes installés en septembre 2019 et le vernissage a eu lieu le vendredi précédant la FIAC, qui avait lieu donc en octobre, historiquement.
Octobre 2019. Ensuite, malheureusement, vous avez eu le Covid. Voilà, donc tout ça a pris un peu de...
Ça nous a mis un petit stop de lancement. Mais voilà, on a rebondi très fort par la suite, mais effectivement, il a fallu quand même faire avec.
Relancer tout ça. Moi, c'est un lieu que j'adore visiter, qui est ouvert, bien sûr, dans la semaine. Vous nous donnerez, à la fin peut-être de l'interview, vous nous donnerez les horaires d'ouverture. Madame Lemoyle, il y a donc, je crois, dans cette friche, dans ces bâtiments, je crois qu'il y a 8 galeries.
Alors, nous sommes 8 galeries, effectivement. Les galeries historiques qui se sont installées sur le site, donc il y a évidemment celle de Fabienne, ainsi que nos compères, donc la galerie Wolf, Jocelyn Wolf, la galerie Sator et la galerie R de Paris. Et c'est ensuite joint à nous la galerie 2248 et très récemment les galeries Iragi et Nika Project. Et je complète également sur le site Laurel Parker Book, qui est une éditrice de livres d'art exceptionnelle.
Oui, c'est le fleuron, hein, je le rappelle, hein, pour nos auditeurs qui sont peut-être un peu novices hein, en
En création, c'est vraiment le fleuron, là, on est dans le centre de la création contemporaine. Et il y a également une école de mode.
Oui, tout à fait, la Parsons School, qui accueille, me semble-t-il, les dernières années. Donc toute l'école n'est pas physiquement sur place, il en reste une partie, je crois, dans Paris. Dans le Marais, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, là, ils accueillent les dernières années, qui sont en face de nous, en effet.
Oui, donc, outre les 8 galeries d'art contemporain, je crois qu'il y a des résidences donc, d'artistes, il y a également des résidences d'acteurs de théâtre, puisqu'il y a, il y a une salle de spectacle.
Alors, la salle de spectacle, je pense, se trouvera à terme dans la partie du site qui n'est pas encore ouverte au public, et qui n'est pas encore accessible, mais qui... Enfin, voilà, qui a... apparaîtra très prochainement, j'espère. Et oui, qui, je pense, ouvrira le champ de la culture de manière beaucoup plus large. Pour le moment, le site est quand même plus dédié à l'art contemporain. Mais effectivement, à terme, il y aura musique, théâtre, cinéma. L'idée étant de créer un complexe très large de création.
Oui, Romainville, lieu incroyable à découvrir. Je continue mon interview. Le studio de danse également, je crois que vous accueillez, la fondation accueille la compagnie de danse Blancali.
Oui, oui, oui.
Ce n'est pas rien.
Non. Oui, effectivement. Et c'est le studio de répétition derrière.
Oui, oui, oui. Donc ça s'appelle le FAST, on m'a dit. Ce lieu culturel fleuron de l'art contemporain a changé de nom. Hein. Je crois qu'avant ça s'appelait
Il y a deux choses. Comunuma, ce sont les galeries avec Laurel Parker. Donc ça, c'est à notre initiative, c'est le nom que nous sommes choisis. Et il y a Fininco, donc promoteur immobilier, qui a donc créé sa fondation à l'occasion de l'ouverture de ce site, la fondation Fininco. Et FAST, effectivement, il me semble que c'est le nom donné au projet porté par le quartier, dans lequel nous, on s'insère. Mais disons que Mouma, c'est vraiment notre identité.
Très bien, il y a donc deux parties. Hein.
Oui, tout à fait. Exactement.
Et vous n'êtes pas loin du métro, hein, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure.
Et on est à 5 minutes de marche du métro, donc sur la ligne 5. L'arrêt, précisément, est Bobigny-Pantin-Raymond Queneau. L'avant-dernier arrêt de la ligne 5 et ensuite il faut marcher 100 minutes jusqu'à nous. Ouais.
Alors j'ai visité moi 5 galeries, la vôtre est magnifique et très intéressante et il y a en ce moment un photographe, Patrick Tosani, qui photographe des années 60, qui présente une exposition tout à fait intéressante sur justement le rapport des formats, des échelles avec les paysages. Il place dans la nature des bouts de miroir et on voit se refléter l'arrière, le paysage qu'il y a derrière l'objectif.
Exactement.
Donc j'en dis pas trop, mais un mot Marine Lemoyal. Sur Patrick Tosani, voilà, c'est pas la première fois que vous exposez cet artiste.
Non, alors ça fait, nous en sommes normalement à la 4e exposition personnelle de Patrick avec la galerie. Et donc celle-ci, bonne soirée. Celle-ci a commencé donc le 3 novembre et se terminera le 21 décembre. Et donc dans cette exposition, nous présentons un corpus d'œuvres tout à fait récentes de Patrick qui sont datées entre 2023 et 2024. Et nous mettons aussi en dialogue ce nouveau corpus avec des productions plus anciennes des années 90-2000 qui sont présentées au deuxième étage. L'idée étant de mettre en avant ces interrogations qui l'ont toujours suivi dans le cadre de son travail, qui sont notamment liées à des questions d'échelle, de format, de questionner le médium photographique dans sa technicité, entre guillemets, la plus pure, d'une certaine manière. Et donc, effectivement, dans cette exposition, les œuvres présentées jouent d'un dispositif de miroir qui est installé en pleine nature, ce qui est quelque chose de relativement nouveau pour Patrick Tosani, de sortir de l'atelier. Et donc là, les miroirs sont disposés dans la nature et viennent refléter justement le paysage qui se trouve, qui vient se confronter justement à ces formes définies par l'artiste que sont les miroirs. Et donc, ce qui donne comme ça des proportions paysages tout à fait intrigantes. Parce que les formats ne sont pas forcément très grands, mais justement le paysage qui vient s'y refléter, lui, est énorme. Et donc, ça nous questionne par rapport à notre jeu d'images qui se déroule devant.
Oui, on voit des forêts, on a l'impression qu'il y a des fenêtres encastrées dans les forêts et qui font découvrir un autre paysage en arrière-plan. Alors que finalement, c'est inversé.
Exactement.
Ouais. Voilà, donc vraiment... Est-ce que la galerie est ouverte demain?
Alors, la galerie n'est pas ouverte le...
Demain
le... Nous sommes... Ah oui, bien sûr.
Samedi, donc demain, elle est ouverte.
D'accord. De 11h à 19h.
De 11h à 19h.
Et donc, bonsoir. Et la galerie est ouverte du mardi au samedi, de manière générale, de 11h à 19h. Nous vernissons toujours les dimanches avec toutes les galeries, les dimanches après-midi, et nous maintenons également un dimanche d'ouverture en plus de celui du vernissage, en l'occurrence pour l'exposition de Patrick. Cela tournera le dimanche 8 décembre, de 15h à 19h.
Très bien, donc nos auditeurs peuvent venir vous voir le...
Avec grand plaisir.
Le 8 décembre, très bien. Merci beaucoup Marine.
Merci.
Le Moal. Je rappelle, hein, vous êtes galerie manager de galerie fameuse, galerie in situ Fabienne Leclerc à Romainville. Merci beaucoup et j'invite donc nos auditeurs à venir découvrir ce lieu. Vous ne serez vraiment pas déçus, d'autant plus qu'il y a un café salon de thé avec des pâtisseries succulentes dans ce complexe qui s'appelle désormais le Fast.
Exactement.
Et une autre galerie quand même avant de conclure à vous recommander dans ce lieu, c'est la Chaufferie.
Oui,
qui fait partie donc de la fondation Fimenco, hein, c'est juste à côté.
Ouais, qui est leur espace d'exposition finalement. C'est là où sont présentées les œuvres des artistes qui viennent en résidence à l'année. Et donc leur résidence se solde généralement par une exposition qui rend compte de leurs travaux réalisés durant les mois où ils ont été ici, où ils ont pu justement utiliser les ateliers de production qui sont mis à leur disposition. Mais il y a également d'autres événements qui sont présentés, qui ne sont pas nécessairement liés aux résidents.
Voilà.
Ça peut être des invitations faites à des curateurs ou à des thématiques particulières d'exposition.
Oui, alors là, la thématique, c'est sur la Lituanie. Voilà, c'est une exposition collective regroupant 10 artistes lituaniens. Et il y a tous les médiums, vraiment, peinture, photo, vidéo, céramique, c'est magnifique.
C'est très vaste.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Voilà, pour conclure mes coups de cœur, eh bien, deux coups de cœur ce vendredi. Un coup de cœur pour une bande dessinée qui s'appelle 20 décembre, qui vient de sortir chez Dargo, qui a remporté le prix d'histoire de la bande dessinée de la fondation Pierre Laffut. Ça se passe sur l'île de la Réunion en 1848 et c'est sur l'abolition de l'esclavage. Deuxième coup de cœur, spectacle de cirque clown pour tout public, enfants, famille à partir de 8 ans. C'est le fameux Slava Snow Show. Et c'est à Courbevoie du 26 au 29 décembre. Les tarifs sont de 15 à 39 euros. Voilà, vous pouvez réserver vos places sur le site de Courbevoie. Sortir à Courbevoie. Voilà. Merci beaucoup, chers auditeurs, de m'avoir écouté. Vous retrouvez vendredi prochain, vendredi 6, Marie-Laure qui va vous parler des traditions de la Saint-Nicolas. Et quant à moi, on se retrouve le 13 décembre. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée.
Éternellement. des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours. On s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient.